Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le premier épisode de Politiquement Vôtre pour cette année 2024-2025. Politiquement Vôtre, c'est votre émission politique mensuelle imaginée par les acteurs sociaux des centres Goscinny et Houdiné dans le but de permettre à la jeune génération de s'exprimer sur les sujets qui la concernent directement et acquérir une vision plus précise de ce qu'est la politique et la façon dont elle affecte leur vie quotidienne. Pour cette première émission de Politiquement Vôtre de l'année 2024-2025, je suis aujourd'hui en compagnie de Massimo, qui nous vient tout droit du Val-de-Marne. Massimo, tu as 21 ans, tu prépares un BPJEPS et tu es stagiaire ici au centre Paris Anime Houdiné. Comment ça va, Massimo ?
Ça va bien et toi ? Du coup, oui, comme tu l'as dit, je suis stagiaire BPJEPS en alternance au centre Houdiné. Donc voilà, j'ai hâte de faire cette émission avec toi.
D'accord, première émission de radio, je crois, aujourd'hui.
C'est ça, ouais, première émission.
Et tu suis un petit peu la politique ?
Pas beaucoup, franchement voilà. Je ne me connais pas assez, mais j'ai envie d'en apprendre davantage.
Voilà, bon, on va en apprendre aujourd'hui avec notre invité Hassan Lakeoul, qui est donc à 27 ans, qui a grandi à Tournefeuille, près de Toulouse, et vous avez suivi une formation d'assistante sociale avant de travailler en centre de santé et en centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Vous êtes notamment spécialisé en droit des étrangers. Surtout, vous êtes connu pour avoir été élu l'an dernier le 26e secrétaire général du mouvement des jeunes communistes de France, succédant à Léon de Fontaine, qui occupait cette fonction depuis 2019. Vous le répétez souvent, votre conviction est qu'il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses, et qu'il faut réussir à parler à toutes les jeunesses. C'est pour parler à ces jeunesses que vous êtes monté vendredi soir sur la grande scène de la Fête de l'Humanité avant le concert du rappeur SCH afin de les appeler à se mobiliser contre le RN, ce système capitaliste de merde, je vous cite, et à rejoindre les jeunes communistes pour construire un monde de paix. Comment ça va, Hassan Lakeoul ?
Ça va, merci, je suis impressionné, vous me connaissez très bien en fait.
Vous connaissez bien, je fais une petite recherche.
Bravo à vous, exactement.
Alors, c'était comment cette Fête de l'Huma et c'est comment de monter sur la grande scène de la Fête de l'Huma ?
C'était ouf, franchement c'était ouf, c'était une expérience de malade. La Fête de l'Huma, c'est la plus grosse fête populaire d'Europe finalement. Il y a 450 000 personnes cette année. Et on peut imaginer la foule avant le concert d'SCH, c'était un truc de dingue, j'avoue que je faisais pas le fier. Mais après, je suis parti et c'était parti. Quoi. Non, c'est une belle fête, c'est un rendez-vous annuel où on retrouve des potes, on retrouve des... Moi, c'est l'occasion de revoir toute l'équipe toulousaine et tout, donc c'est cool, ça fait D'accord. plaisir.
Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez expliquer ce que c'est que la Fête de l'Humanité ?
Ouais, bah, l'Humanité, en fait, c'est un journal. Pendant très très longtemps, ça a été le journal, on va dire, officiel du PCF. C'est un journal quotidien qui sort tous les jours, comme Libération, Le Monde, Le Figaro. Enfin, c'est un vrai titre de presse, quoi, qui est vendu à beaucoup, beaucoup d'exemplaires. Et chaque année, ce journal organise une fête. Et en fait, c'est à la fois un festival avec une scène musicale en vrai sérieuse, quoi, des gros artistes. Et voilà, cette année, il y avait SCH, Se l'Enfoiré, enfin, j'en oublie plein, Calogero pour les anciens, on va dire. Mais voilà, c'est une belle scène musicale assez sérieuse. Et à côté de ça, il y a des stands du Parti communiste de la France entière, de tous les départements, toutes les villes de France, et aussi même du monde entier. Pas que des communistes, mais genre, il y a, je sais pas, les socialistes du Chili, de pays qu'on savait même pas que ces pays existaient. Et ça permet de rencontrer, de connaître des combats qu'on connaissait pas et de goûter aux spécialités du monde entier aussi, et en termes de boissons et en termes de bouffe. Et donc c'est un peu ça, la Fête de l'Huma, c'est un festival populaire, c'est une fête populaire et en même temps c'est le gros gros rendez-vous des communistes du monde entier, donc c'est cool, on est très fiers de l'accueillir en France.
C'est la grande fête de la gauche en fait, et effectivement il y a le village du monde où on peut aller rencontrer des militants de gauche des pays du monde entier, donc qui vivent en France, ou certains même qui viennent des fois de l'étranger. On voit notamment des Allemands qui arrivent des fois en cargaison pour participer à la Fête de l'Huma. Tu connaissais pas ce festival ?
Non, moi je connaissais pas ce festival, mais il a l'air... Ouais.
C'est énorme, c'est le plus gros. C'était à La Courneuve avant, ouais. Donc c'était plus simple. Là c'est dans l'Essonne, c'est un peu plus loin, mais franchement ça vaut le coup. Et c'est 40 balles pour le week-end. C'est un des...
Ouais.
C'est,
franchement, bon, ça va, oui, c'est raisonnable.
Pour la scène, pour la proposition musicale, c'est... Ouais. Voilà, c'est un truc populaire, nous, l'objectif c'est qu'il y ait le plus de monde qui y ait accès. Quoi, donc.
Mais c'est vachement bien en plus de mélanger ça du coup avec l'art de la musique, quoi, avec les artistes, les grandes têtes, etc.
Ouais, c'est ça. Bah, parce que le principe, c'est de se dire que tous les gens qui viennent, l'écrasante majorité, ils viennent pour la musique. Mmh. Et sauf qu'en fait, dans les allées, ou en train de commander une bière ou quoi, ils vont discuter avec des militants, des gens qui font de la politique. Et c'est là, pour beaucoup, c'est la première porte d'entrée vers ce monde qui paraît super compliqué et super chiant aussi de la politique. Mais c'est une manière cool d'arriver à la politique. Donc, c'est super intéressant.
Ouais, ça m'a l'air, ouais.
Dire que la fête de l'UMAX depuis 1930, c'est le plus vieux des festivals qu'on puisse avoir en France, et c'était la 89e édition qu'on a fêtée la semaine dernière.
Ah oui, ok, voilà, quand même.
C'est quelque chose de très ancien, de très ancré. Voilà. Et du coup, Hassan Lakaoul, je le disais, vous êtes le 26e secrétaire du mouvement des jeunes communistes de France. Est-ce que vous pouvez présenter aussi le MJCF pour ceux qui ne le connaissent pas?
Ouais, le MJCF, on appelle ça JC souvent entre nous, enfin jeunes communistes, quoi. C'est une organisation de jeunesse politique. Et où en fait on fait de la politique entre jeunes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus, on sait, là, les partis politiques sont assez vieillissants. Bon là, tous les partis ont fait des coups de com' en mettant des jeunes, depuis Macron, Attal, Bardella, enfin tout le monde met en avant des jeunes, mais en vrai, la politique, il y a beaucoup de vieux. Et donc nous, on s'organise entre jeunes pour parler de sujets de jeunes, de trucs qui nous touchent. Et donc le principe des jeunes communistes, c'est que tout le monde est le bienvenu. Il n'y a pas besoin d'avoir lu je ne sais pas quel livre, d'être spécialiste. Non, c'est juste, si on veut changer son quotidien et améliorer un peu sa vie, ben on est les bienvenus. Et ensuite, il y a de la formation, du débat, de la discussion, et on se forme petit à petit. Mais vraiment, il n'y a aucune barrière à l'engagement. Nous, on est convaincus qu'il faut faire de la politique avec le plus grand nombre, et pas qu'avec les gens déjà spécialistes, quoi, pas qu'avec les gens qui s'y connaissent déjà. Non, au contraire. Et chez les communistes, il y a toujours eu ça, il y a toujours eu ce truc de partir de ce que vivent les gens, quoi, pour amener à la politique. Et ça a longtemps été une grande école de formation, en vrai, le PC. On a formé des gens qui sont devenus ministres, et à la base, c'était des gens c'était des ouvriers, quoi, qui travaillaient à l'usine à 13 ans et qui ont pu devenir ministres. Ou voilà, Georges Marchais, Ambroise Croizat, enfin voilà, et plein d'autres gens à l'ancienne. Hein, mais c'est, voilà, on a toujours eu ce truc de... faire adhérer le plus grand nombre et proposer à des gens qui sont pas du tout destinés à faire de la politique un apprentissage. Et voilà, donc les jeunes communistes, c'est un peu ça, c'est une orga de jeunesse par les jeunes pour les jeunes, et qui défend ce dont on a besoin. Voilà, on a des combats contre Parcoursup, pour la gratuité du permis de conduire, la gratuité des transports, plein de choses qui pourraient changer nos quotidiens, quoi. Nous, on s'organise, et le principe, c'est que à plusieurs, on a plus de chances de gagner que tout seul. Et donc, du coup, bah, voilà, c'est un peu tout ça, les jeunes communistes.
Très bien, je vous remercie. Du coup, on va parler un petit peu de vous, de votre parcours, parce que là, on a un jeune, en l'occurrence Massimo, qui n'est pas forcément politisé. Et comment on se retrouve, du coup, à 27 ans, pour être déjà président, entre guillemets, d'une organisation de jeunesse? Est-ce que la politique était présente chez vous? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes dans la politique, toujours baigné? Ou est-ce que c'est avec la jeunesse que ça vous est venu?
Non, moi, ça commence à faire un moment, j'ai adhéré à 16 ans.
D'accord.
Donc ça fait 12 ans que j'ai adhéré à Toulouse, du coup, enfin à Tournefeuille même, précisément chez moi, dans la banlieue toulousaine. Et en fait, c'était les élections présidentielles en 2012. D'accord. Et je m'intéressais un peu à la politique, j'en avais marre. J'avais capté déjà que ça régissait un peu toute ma vie sans qu'on s'en rende compte. Voilà, le fait avoir accès à un studio pour faire de la radio, ça c'est des décisions politiques qui font qu'on puisse y avoir.
Bien sûr.
Le coût des transports tous les jours quand on prend le bus, le métro, ça c'est des décisions politiques. Est-ce qu'on va avoir accès à un enseignement de qualité, ça c'est des décisions politiques. En fait, est-ce qu'on va pouvoir avoir un boulot qui nous plaît? Tout ça c'est des choix politiques. Et du coup, moi je voulais être acteur, je voulais pas juste qu'on décide des trucs pour moi. Donc je voulais m'intéresser, et je suis allé à la manif du 1er mai en fait, en 2012, et là il y avait des jeunes, c'était les jeunes communistes, ils sont venus me voir, ils m'ont proposé d'adhérer, j'ai dit allez, on y va. Et puis, et je suis resté parce que, en fait, j'étais dans un lycée polyvalent, il y avait bac pro, bac général, et j'étais surpris de voir que c'était deux jeunesses qui se parlaient jamais. Et chez les jeunes communistes, quand j'ai adhéré, je voyais que là, c'était la première fois de ma vie où je voyais que ces deux jeunesses se parlaient, quoi, se rencontrer. Si, avec le foot aussi. Dans le foot aussi, on se... Voilà. Mais là, c'était l'un des seuls endroits, et du coup, je me suis dit, déjà, ça j'ai bien aimé. Et puis, en plus, moi, comme j'ai grandi en banlieue de Toulouse, pour tout, fallait que j'aille à Toulouse. Pour les sorties, pour le lycée, pour le cinéma, tout était à Toulouse. Et là, chez les jeunes communistes, on m'a dit, on a aussi une section chez toi à Tournefeuille, donc t'inquiète. Et du coup, avoir ce truc de toutes les jeunesses qui se parlent, et en plus c'était chez moi, bah, je me suis dit ok, je me suis direct senti bien et en confiance. Et donc petit à petit, je me suis engagé à fond, je voulais tout faire, quoi. Moi j'étais partout. Et donc petit à petit, on m'a confié plus de responsabilités en Haute-Garonne, puis petit à petit au National, et puis après, ben voilà, petit à petit, j'avais du temps, j'étais dispo et j'étais motivé. Donc en fait, on m'a confié des responsabilités, et c'est comme ça qu'il y a un peu plus d'un an maintenant, je suis devenu secrétaire général des jeunes communistes, et voilà quoi.
D'accord, je te remercie. Massimo, est-ce que là tu te sens proche de tout ce que raconte Hassan sur l'engagement politique et la façon dont la politique régit nos vies? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou quelque chose qui te semble assez lointain?
Bah, moi en soi, ça m'intéresse quand même, c'est juste que je pense que je m'y connais pas assez. Mais c'est vrai qu'en écoutant le parti auquel tu défends et ses valeurs, je comprends que l'importance de la politique à travers notre monde, à travers l'évolution, à travers la jeunesse principalement, que je pense, enfin c'est elle, nous sommes les futurs acteurs de demain. Donc avoir quelque chose qui cible vraiment la jeunesse et pour les futures jeunesses également, je pense que c'est très important.
Hassan, quand vous croisez des jeunes qui hésitent à s'engager ou qui se sentent loin de la politique, pas représentés ou pas forcément concernés, qu'est-ce que vous leur dites? C'est quoi votre discours à ce moment-là?
Bah déjà, je leur dis que je comprends et qu'en vrai, c'est normal. Ben, moi ça m'énerve un peu tous les politiques un peu moralistes là qui font la leçon, qui disent ouais va voter, tu te rends pas compte, on est mort pour que t'aies le droit. Sauf que moi ça me gave un peu ça, parce que quand on essaye de suivre la politique, on s'y connaît pas, ou même quand malgré nous on a des infos qui nous viennent politiques, c'est que soit des magouilles, soit des histoires où on voit que en fait ils défendent que leurs intérêts à eux, soit des trucs de il y a un tel, il a embauché ses enfants, il a détourné des sous, les paradis fiscaux. Et donc, en fait, je comprends que ça dégoûte. Parce que bah, souvent, ceux qui nous dirigent depuis maintenant beaucoup, beaucoup d'années, c'est un peu toujours les mêmes. Et je comprends qu'on en soit dégoûté et qu'on en soit éloigné. Ça parle tellement jamais de nous et de ce qu'on vit. C'est tellement des débats qui sont déconnectés. Et même dans la manière de parler, c'est difficile de comprendre, que je comprends. Voilà. Mais maintenant, moi, ce que je leur dis, c'est que, en fait, tout est fait pour qu'on ne s'y intéresse pas aussi. Et qu'il y a, on va dire, nous, dans notre analyse de communistes, ce qu'on dit, c'est qu'il y a une classe dominante, en fait, c'est ceux qui possèdent tous les moyens, les grands médias, les grandes entreprises, tout ça. Pas tous les patrons, je ne dis pas tous les patrons, mais les gros patrons qui, en fait, ont intérêt à ce que personne ne s'intéresse à la politique. Eux, ça les arrange. Et donc, ces gens-là et les gens qui les défendent. Donc aujourd'hui, les plus évidents, le plus gros grossier, c'est les macronistes, Macron, voilà, qui vient de ce milieu-là, qui vient de Rothschild, qui vient des puissants, des puissances de l'argent, de la finance et tout. Ben, ces gens, ils ont intérêt à ce que la masse, à ce que la majorité des gens ne s'y intéressent pas. Parce que si nous, on s'y intéresse, on va défendre l'intérêt commun, on va défendre l'intérêt de la majorité des gens, et pas leur petit intérêt à eux, parce qu'au final, ils sont minoritaires. Et si ils arrivent à rester au pouvoir, c'est que parce que la majorité des gens ne s'y intéressent pas. Donc moi, ce que je dis, c'est que déjà, je comprends que ça saoule et qu'on ne s'y intéresse pas, mais que maintenant, j'invite à s'engager, parce que c'est que ça qui permettra qu'on arrive à finalement reconquérir le pouvoir pour défendre l'intérêt général, l'intérêt des gens qui bossent, de la jeunesse. Et voilà, je pense que c'est qu'en s'engageant qu'on pourra y arriver.
T'es d'accord avec ça, Massimo?
Ouais, non, fortement. Que, en fait, je pense que c'est ça. Il faut juste qu'on prenne le temps d'un peu plus connaître la politique, connaître tous les partis qui peuvent exister, afin de bien prendre sa décision, lequel on aimerait représenter, lequel on aimerait puisse représenter pour les futures générations et la suite de la France.
Ouais, ben, c'est ça. Et c'est pas même. La politique, souvent, on a l'impression que c'est que les élections. Mais nous, la politique, franchement. Les périodes électorales, mais moi, c'est pas ce que je préfère. Mmh. Et nous, au quotidien, on est plus en train d'organiser des tournois de foot ou d'autres choses, de pétanque, de ce qu'on veut, des soirées, des ciné-débats, des fêtes, des... Voilà. Et qu'on est plus en train d'organiser un peu ça, en fait, ce qui fait la vie des jeunes. Mmh. Parce que, bon, les meetings, les assemblées générales dans les facs et tout ça, c'est très bien. Mais ça parle qu'aux gens déjà politisés. Et moi, je pense qu'il faut qu'on parle... à tout le monde, aux gens les plus éloignés de la politique surtout, et du coup nous on est convaincus de ça, c'est pour ça qu'on organise ben, ou des, des révisions solidaires, des aides à rédiger des CV, des lettres de motivation, la solidarité en fait, ou des trucs, voilà, des trucs festifs ou sportifs ou culturels. Parce qu'aujourd'hui, il faut partir de ce que font les gens, de ce que nous on fait. Moi, je me dis souvent, avant que je fasse de la politique, jamais je me serais intéressé à tout ça. Et si je suis à quoi, qu'est-ce qui m'aurait pu me faire accrocher, quoi? Bah, c'est ça, un tournoi de foot organisé dans mon quartier, une soirée, un concert, c'est ça. Et du coup, nous, c'est ça qu'on organise. Donc, et pour ça, il n'y a pas besoin d'être spécialiste de la politique. Moi, c'est ça que je dis, c'est que pour venir chez nous, n'importe qui est le bienvenu. S'il a un peu de temps à donner, s'il est un peu motivé pour faire deux, trois trucs, ça suffit, quoi.
D'accord. Et vous le disiez un petit peu tout à l'heure, c'est quoi les principales revendications que vous avez, que vous présentez à ces jeunes-là pour leur dire, nous, en fait, les combats qu'on mène, ils sont importants pour vous? C'est lesquels vos grandes lignes, les grands combats que vous menez en tant que jeune communiste?
Moi, je dirais que les deux, on a beaucoup de revendications. Et je pourrais les classer dans deux grandes familles. Allez, trois. On va dire, c'est les questions d'éducation, les questions de travail et les questions internationales aussi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent pour ça. Sur l'international, par exemple, nous, on défend beaucoup la paix entre Palestine et Israël. Parce qu'aujourd'hui, c'est atroce ce qui se passe là-bas. Il y a un génocide qui est en train de se passer. Il y a un peuple qui se fait massacrer. Et du coup, nous, on se bat pour la paix en Palestine et en Israël. Et pour que les deux peuples puissent vivre ensemble dans une paix juste et durable. Ça, c'est important. Pour la paix en Europe aussi, avec ce qui se passe en Ukraine et tout, bien sûr. Mais aussi, je disais éducation-travail, parce que c'est ce qu'on vit, quoi. Et donc, pour l'éducation, nous, on se bat pour la fin de Parcoursup, parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est une espèce de plateforme qui va trier les élèves et qui va dire, toi, tu n'auras pas le droit de faire des études, toi, c'est bon, parce que... Parce que tu as des bonnes notes, ou parce que tu étais dans le bon lycée, ou parce que tu as fait le SNU, ou tu as fait tel truc qui fait que tu as des points en plus. Voilà. Et quand tu viens un peu d'un lycée moins réputé, que ça a été un peu plus dur à l'école pour toi, bah, tu vas être mis de côté. Et donc ça, nous, on trouve que c'est injuste et on se bat contre ça, parce qu'on est convaincu qu'il y aura besoin de tout le monde pour reconstruire le pays, en vrai. Pour, résoudre la crise climatique, pour répondre au vieillissement de la population, pour réindustrialiser la France, parce que moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de produire des trucs en Chine, à l'autre bout du monde, alors qu'on peut le faire ici. Voilà. Pour faire tout ça, on va avoir besoin du plus de cerveau possible et des plus de bras possible. Mais si on se dit, toute une partie de la jeunesse, on l'écarte, on l'empêche de faire des études, c'est un peu comme si, en tant que nation, on se tirait une balle dans le pied, quoi. Donc nous, voilà, on se bat contre Parcoursup, c'est quelque chose d'assez fort, et on se bat aussi pour le travail, pour qu'on ait le droit d'avoir un boulot qu'on a choisi, et un boulot qui paye bien, parce que tu disais, j'étais sur le concert sur la scène avant SCH, mais se lever pour 1002, c'est insultant. Et du coup, ça c'est vrai.
C'est une phrase qu'on croise très souvent en manif sur les banderoles. C'est une revendication qui est assez partagée par les partis politiques de gauche.
Ouais,
se lever pour 1002, c'est insultant.
Voilà, et c'est une phrase d'SCH. Et du coup, voilà, nous c'est ça qu'on dit, quoi. C'est on veut travailler dans de bonnes conditions, avec un travail qu'on a choisi et un truc qui nous permette de vivre de notre travail, parce que, et je finis sur ça, on est un peu dépeint comme une génération de feignants, vous voulez pas bosser, nanana. En vrai, je connais aucun jeune, à part des exceptions, mais qui me dit, ben non, moi j'ai pas envie de travailler, ça m'intéresse. Si tu regardes, tous les jeunes que je connais, ils veulent bosser, ils veulent juste un métier qui a du sens, quoi, et un métier qui leur permette de vivre correctement. Donc voilà, nous on se bat pour le travail digne, pour un système éducatif qui nous permette de réussir, et pour des sujets internationaux, voilà, par exemple, je disais la paix en Palestine, mais d'autres trucs, le permis gratuit, un vrai statut des stagiaires pour tous les jeunes en bac pro qui galèrent à trouver des stages, à trouver des... Voilà, on a plein de choses, mais les trucs principaux, je dirais, c'est système éducatif de qualité, qu'on soit en général ou en professionnel, ou en apprentissage, et droit au travail, voilà, c'est très important chez nous, ça.
Toi, c'est des choses qui pourraient t'intéresser, je veux dire, des sujets, comme il disait, la paix entre Israël et la Palestine, le fait d'avoir un travail bien payé, la fin de Parcoursup, c'est des sujets qui pourraient te faire t'intéresser plus à la politique?
Ouais, bah bien sûr, que ce soit aborder les conflits, les problèmes géopolitiques à l'international, parce qu'à tout moment, ça peut finir par nous affecter,
bien sûr.
Personnellement, donc faut toujours s'y intéresser. Et puis, les actions éducatives envers la jeunesse, bien sûr, Parcoursup. Moi, personnellement, je sais que j'avais été inscrit sur Parcoursup. Ça m'avait pas satisfait. J'avais trouvé des solutions, mais elles n'étaient pas satisfaisantes. Donc, de mon plein gré, après, j'ai fini par trouver une formation qui me plaisait. Mais je suis d'accord, ouais, c'est pas forcément le meilleur système, on peut évoluer.
Très bien, je te remercie. Pour la suite, on va un petit peu avancer. On va parler de l'actualité politique. Et la première question que je vais vous poser, c'est de vous faire réagir, en fait, parce qu'on a vu plusieurs débats télévisés avec votre camarade Léon de Fontaine. Il s'est notamment, donc il était le candidat du Parti communiste aux élections européennes, si ouais, je ne me trompe pas, c'est ça. Donc il y a eu plusieurs débats qui ont été faits à la télé. Et il y avait donc Jordan Bardella face à lui du Rassemblement National qui lui a dit plusieurs fois « Vous êtes communiste. Vous êtes communiste », comme si c'était un argument en soi. Et donc moi, je voulais votre réaction, votre avis. Qu'est-ce que c'est être communiste en 2024? Parce que Jordan Bardella avait l'air de disqualifier son adversaire en disant juste ça, vous êtes communiste, vous êtes communiste. Bah, pour Hassan Lakeoul, qu'est-ce que c'est être communiste en 2024?
Être communiste en 2024, c'est dire que le système dans lequel on vit, donc le système capitaliste, pour on peut mettre un mot sur comment ça s'appelle, c'est dire qu'il a atteint ses limites. Et que ça a été bien un temps, ça a permis de développer plein de pays, ça a permis l'ère industrielle, donc certes des usines, ça a permis de sortir un peu de l'époque où on était juste un monde agricole, où, voilà, ça a permis beaucoup de choses, ça a permis en vrai, je pense, de faire progresser les sociétés. Mais maintenant, on voit que c'est dépassé. Et on voit qu'il y a de moins en moins de monde qui se reconnaît là-dedans. Avec, on voit tout ce que ça pose au climat, tout ce que ça pose, parce qu'on des planètes, on n'en a qu'une en vrai, et ça, on voit que ça atteint ses limites, de vous se dire, allez, le seul objectif, c'est faire de l'argent, au détriment de la planète, ça, on voit que ça ne peut plus durer, et on voit aussi que ça épuise aussi beaucoup les corps et les êtres humains. On voit qu'il y a, je ne sais pas, quand je pense à mes parents, mes grands-parents, qui sont tués toute leur vie au travail, et qui ont des retraites de misère, là, on voit encore avec les réformes des retraites, ils vont devoir travailler plus longtemps. Et du coup, on voit que ce système-là, finalement, il a atteint ses limites, quoi. Et même la mise en concurrence des uns et des autres, je pense que ça, il y a d'autres choses à inventer, quoi. Des trucs de coopération, de solidarité, de s'entraider, plutôt que d'essayer de se faire la guerre pour un poste, pour un boulot, pour une formation. Et donc, je pense qu'il y a un autre monde à inventer, en fait. Et nous, on appelle ça le communisme, mais on est prêt à en discuter, quoi. Tout ce qu'on est prêt à en débattre. Mais en tout cas, je pense que ça devient de plus en plus évident qu'il faut inventer autre chose, et nous on appelle ça le communisme, et le principe fondamental, c'est de dire que le fruit de la production, ce que nous on produit les travailleurs, ça doit revenir aux travailleurs. En fait, c'est ça la base. Et alors que dans le capitalisme, il y a, on va dire, pour simplifier, c'est qu'il y a des patrons, il y a des gens à qui appartiennent les usines, les entreprises, genre je sais pas, je prends le patron de Total, et qui fait travailler des gens, et ensuite du travail des autres, lui, il va extirper, on va dire, il va se prendre un petit bénef pour lui, et c'est ça qui va le faire, qui va lui permettre de acheter plus et tout ça. C'est ça le capitalisme, en fait. C'est qu'il y a des gens qui s'accaparent des richesses et qui après font travailler les autres. Ben nous, on pense que ça, c'est injuste, et que quand on travaille, quand on produit des choses, quand on produit une voiture, ben si on ça quand on l'avance, la voiture, elle est sortie, elle s'est vendue à 30 000 euros. Ben, ces 30 000 euros, on se les partage entre tous les gens qui ont participé à la création de la voiture, et puis voilà, et ça fait le salaire. Par contre, il y a une espèce de plus-value qui est volée par les riches, par les patrons et les banquiers qui ont financé tout ça. Ben, on pense que ça, c'est du vol et que ça nous appartient. Et que, voilà, c'est ça le principe du communisme, c'est que le fruit de l'argent qui sort de ce qu'on a fabriqué, le fruit de la production des travailleurs doit revenir aux travailleurs. Voilà. Et donc nous, c'est ça qu'on défend, on défend le monde du travail. Et aujourd'hui, on pense qu'il faut inventer un autre système basé sur le partage, la solidarité et l'entraide, plutôt que le capitalisme qui, on voit, qui crée les guerres, qui crée les inégalités, qui crée la famine, qui a créé les colonies, qui a fait des choses atroces en vrai. Et nous, on pense qu'il faut créer autre chose, qu'il faut dépasser ça, et voilà, on appelle ça le communisme.
Très bien. Toi, Massimo, tu connaissais, tu l'imaginais comme ça, le communisme en 2024, ou tu découvres des choses aujourd'hui en écoutant Hassan?
Bah, je connaissais bien sûr de nom, mais c'est en fait j'apprends forcément des choses, et puis je suis d'accord, ouais, pour dire en fait faut qu'on fasse une évolution. J'ai perdu mes mots.
T'inquiète pas. De toute façon, j'ai d'autres questions à te poser. Est-ce que tu as suivi toute la période des législatives, d'abord les européennes, les législatives, la dissolution entre les deux, etc. C'est une période qui t'a intéressé?
J'ai suivi, j'en ai entendu parler. Après, je ne me suis pas intéressé assez, mais j'ai entendu le fait qu'il y ait eu dissolution de l'Assemblée nationale et qu'on a Ensuite, par la suite, on a dû refaire les élections européennes. Donc, je me suis intéressé, j'ai voté, bien sûr,
d'accord,
pour au moins pour faire entendre ma voix. Mais honnêtement, j'ai voté, mais je ne m'étais pas forcément intéressé davantage aux partis qui étaient présentés. On va dire que j'ai un peu suivi un mouvement, suivi la tendance. Mais
un peu ton entourage, est-ce que tu voyais tes amis, ta famille, tout ça.
C'est d'accord. Ça un peu dans le sens où il faut voter parce que voilà, il faut voter pour faire évoluer le monde, bien sûr, et changer. Mais c'est vrai que je ne m'y connaissais pas assez dans qu'est-ce que j'ai voté.
D'accord. Bah, je pense que tu as suivi un petit peu la période. En tout cas, on a été un été assez agité en termes de vie politique, puisque comme on le disait, il y a eu des élections européennes. Dès la fin des élections européennes, Emmanuel Macron, le président, a dissous l'Assemblée nationale. Donc, il a fallu un nouveau vote, donc des législatives qui ensuite, et voilà, ensuite la constitution d'une majorité. Hassan Lakioul, comment vous l'avez vécu ce moment avec notamment le NFP qui arrive en tête, mais qui perd les élections finalement avec pour point final la nomination d'un vieil homme de droite, Michel Barnier, qui est en train de constituer son gouvernement. C'est quoi votre sentiment sur cette situation?
Bah, c'est que quand même on a des institutions un peu bizarres, quoi, ou qui ont un peu mal vieilli, parce que la 5e République, elle a été construite par le général de Gaulle à l'époque de la guerre d'Algérie. Et c'était une période de guerre. Et du coup, il a écrit une constitution pour que, en période de trouble, le président puisse avoir beaucoup de pouvoir pour prendre des décisions urgentes et tout ça. Sauf que c'est vieux, quoi. Donc, je pense qu'il est grand temps d'inventer autre chose, d'écrire une nouvelle constitution, de nouvelles règles collectives. Parce que là, on voit qu'il y a des dérives énormes et qu'il y a un président de la République qui a beaucoup, beaucoup de pouvoir et qui peut un peu faire ce qu'il veut, quoi. Donc là, on voit qu'il a dissous l'Assemblée nationale. Il n'y a eu aucune majorité absolue, mais il y a quand même une force. Donc le Nouveau Front Populaire, c'était toute la gauche rassemblée, qui est arrivée en tête des élections et qui n'a pas été... et lui, il a décidé de ne pas tenir compte du résultat des urnes. Donc moi, ce que je trouve qui est fou, c'est bon, déjà qu'il fasse ça, mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'il a le droit de le faire. Dans la Constitution, le président, il nomme le Premier ministre qu'il veut. Et c'est ça le problème.
Alors, ce qu'on peut dire, pour être plus clair pour nos auditeurs, c'est qu'effectivement, Emmanuel Macron n'a pas respecté les us et coutumes de la démocratie française. Ça veut dire que normalement, le groupe qui arrive en tête, la tradition est de lui donner l'opportunité de créer un gouvernement, ce qui n'a pas été fait. Et en fait, Macron, effectivement, il a été conforté par les institutions françaises qui lui donnent raison. Et en fait, il a vu qu'en fait, la gauche, même si c'est arrivé premier, il n'avait que 30% des voix. Et donc, il a la droite qui représente environ de la droite à l'extrême droite, ce qui fait 70% des voix. Et bien, ensemble, ils ont créé une majorité avec la droite LR et la droite macroniste.
Et voilà. Du coup, c'est ce qui a causé la dissolution?
Non, ça, c'est la presse. C'est ce qui a causé l'arrivée de Michel Barnier comme Premier ministre. D'accord. Alors qu'on pouvait s'attendre à ce qu'au moins Lucie Castet soit testée. Il y a du coup vos collègues du Nouveau Front Populaire, notamment les Verts et les Insoumis, qui ont déjà... comment dire, qui ont fait état de leur envie de censurer le nouveau gouvernement. C'est pas quelque chose qui, aux dernières nouvelles, c'était pas partagé par le Parti communiste. Vous pouvez nous expliquer un peu votre position sur cette censure ou non du gouvernement Barnier?
Ouais, nous, en gros, on part du principe que on veut d'abord écouter le discours de politique générale. On veut voir ce qu'a prévu de faire ce gouvernement pour ensuite prendre notre décision. Mais on va dire, c'est presque une position symbolique. C'est que nous, on veut pas dire a priori, on va censurer, a priori, on va pas censurer. On préfère dire, ben, on jugera sur pièce, quoi. Mais la vérité, c'est que tout le monde sait, mais je pense qu'on va censurer. Parce que Michel Barnier, il a jamais été ministre. Enfin, si, je crois, si, il a déjà été ministre. Il a jamais été Premier ministre. Non. Mais on le connaît, le gars. Il a passé toute sa vie à travailler à la Commission européenne.
Exactement.
Je crois qu'il a fait beaucoup, beaucoup de gouvernements, quand même. Mm-hmm. Et on sait que c'est un mec de droite qui a toujours travaillé pour l'Union européenne, et on sait comment l'Union européenne, elle a pourri la vie de beaucoup de pays. Et donc, ouais,
il est celui d'ailleurs qui a incarné les négociations pour le Brexit avec la Grande-Bretagne.
Ouais, c'est ça. Et donc voilà, il vient de la droite, et la droite, on les connaît, quoi. On se souvient de la politique de Sarkozy. On peut dire ce qu'on veut de Macron, c'est une politique de droite. Enfin, on connaît, quoi. Et donc nous, on s'attend voilà, à ce que... Là, il parlait de faire 110 milliards d'économies, par exemple, mais 110, d'ici 2027. Donc 110 milliards d'économies en 3 ans. Mais 110 milliards d'économies, c'est un truc de ouf. Des économies, là, concrètement, ça veut dire... là, on est tous à chaque fois très émus, à juste titre. Quand on voit l'état de l'hôpital, on voit qu'il y a des personnes âgées qui, qui sont pas prises en charge, qui sont sur les brancards dans les couloirs et tout ça, on est scandalisé. Mais par contre, quand il s'agit de dire bon ben il faut mettre de l'argent, ben là de suite on dit ouais non, et même pire, non seulement on va pas en mettre, mais en plus il faut faire des économies parce que il y a trop d'argent. Franchement, allez dire aux infirmières, aux médecins, tout ça, qu'il y a trop d'argent dans l'hôpital, voilà. Et pareil dans l'école, on voit qu'on est, il y a trop d'élèves dans les classes, il y a pas assez, les profs ont pas les moyens d'accompagner correctement les élèves. Pareil, on voit qu'il y a de l'insécurité, on voit qu'il y a, il y a des problèmes dans beaucoup de quartiers, on voit qu'il y a des armes, de la drogue qui circulent et tout. Et on dit on va enlever des moyens aux policiers, aux douaniers, aux juges, aux magistrats. C'est pas sérieux, quoi. En vrai, une politique qui dit moi, mon objectif, c'est faire des économies, c'est absurde. En vrai, c'est criminel de faire ça. Parce que moi, je pense au contraire, il faudrait mettre plus d'argent pour rehausser les services publics. J'ai dit l'école, la police, la justice et l'hôpital, mais il y en a plein d'autres. Voilà, une vraie ambition pour la jeunesse. On voit à quel point c'est la galère pour trouver du travail, pour plein de choses. Et moi, je pensais tout l'inverse. Il faut investir, il faut construire des facs, il faut construire des IUT, il faut donner les moyens à notre génération de réussir. Et c'est pas en lui disant on va te donner encore moins de moyens, déjà, comme si c'était pas déjà assez la galère, et puis démerde-toi. Là, on sait ce qui va se passer. Hein. C'est ceux qui ont les moyens de réussir que les familles pourront aider qui vont se réussir. Et les autres, on va galérer. Et c'est, en fait, c'est la loi du plus fort, quoi. Alors que si justement on fait de la politique, si on fait société, c'est pour qu'il y ait une forme de justice et que ça soit pas juste la loi du plus fort que toujours les mêmes familles les réussissent. Et donc pour moi, une politique qui prévoit de faire des économies, c'est une politique criminelle et qui risque en vrai de faire de nous une génération sacrifiée, quoi. Et tant pis, les jeunes pendant 5-10 ans, tant pis, démerdez-vous, on verra plus tard. Donc ça, pour moi, c'est grave et il va falloir la combattre, cette politique.
Massimo, c'est des choses que tu ressens, ça, le fait qu'il y ait moins d'investissement dans l'école, dans l'hôpital, dans les services publics en général, c'est des choses que tu arrives à ressentir concrètement ou pas du tout?
Moi, en fait, je pense que je n'ai pas forcément vu qu'il y a eu une mise de sous, dans le sens où, en fait, ils ont toujours économisé, ils ont toujours décidé de garder, et ça a juste à peine à venir, leurs investissements dans les quartiers, dans les écoles, dans les hôpitaux, etc. Donc, et puis même moi, je peux le ressentir venant du 94 en banlieue. Je vois, par exemple, il y a très, très, très peu de centres de jeunesse, de maisons de quartier, alors que plus on se rapproche du centre de Paris et plus on en a. Mais je pense que c'est un gros problème.
Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est que même nous, on est habitué maintenant, moi, ma génération, on a connu que ça. Les politiques qui nous disent, ouais, il faut économiser. Mais la vérité, c'est que en fait, ils réfléchissent à budget constant. Donc c'est sûr, si tu dis, si je sais que j'ai toujours, mettons, que 100 balles pour finir le mois, je vais dire que je fais des économies. Sauf que là, on parle pas de on parle d'un État et de la France, pas n'importe quel pays. Et il y a plein de richesses à aller chercher. On voit tous les super profits, tous les bénéfices que font les grandes, le CAC 40, genre Total, Renault, enfin toutes les grosses boîtes, même Google, Amazon, toute la fraude fiscale, tous les patrons qui planquent leur argent à l'étranger et tout. Là, il y en a plein de l'argent à aller chercher pour financer tout ça. Ou par exemple, autre exemple dans le sport, là, on voit, il y a eu les Jeux Olympiques, c'était génial. On a eu plein de médailles et tout, c'était bien. En vrai, c'était une bonne période. Mais maintenant, il y a plein de jeunes qui vont s'inscrire dans les fédérations. Je sais pas, il y a plein de jeunes qui veulent faire du ping-pong, du judo, de la natation, même BMX avec les... Voilà. Sauf qu'ils vont faire ça sur quelle piste de BMX, dans quelle piscine, dans quel gymnase, dans quel stade. Parce que, tu parlais du 94, il y a la Seine-Saint-Denis aussi. C'est un des départements, c'est le département le plus jeune de France, mais c'est le département où il y a le moins de piscines par habitant. C'est quand même fou, ça. Et on va nous dire, ouais, mais il faut faire des économies. Alors qu'au contraire, il faut investir dans tout ça pour que si la France, on veut rester une puissance et on veut rester un pays attractif, si on veut pas devenir un petit pays, il faut qu'on mette des sous, quoi. Et cet argent, nous, en tout cas, les communistes, on a plein d'idées pour aller chercher l'argent. Si jamais ils veulent nous demander, on a plein d'idées.
Mais c'est ça, ouais, je pense, à investir dans les infrastructures fortement. Parce que j'ai aussi une politique, je pense, qui vise à vouloir économiser. Finalement, elle donne pas l'argent au peuple.
C'est ça.
Ouais, puis on sait où sont les piscines. Il y en a à Stanislas, il n'y en a pas beaucoup en Seine-Saint-Denis. Voilà. On a parlé un petit peu de l'horizon 2027 et je voulais savoir quel horizon vous voyez, vous, à 2027, parce qu'on voit déjà que il y a un peu de rififi, hein, au sein du NFP. Le PCF et la France Insoumise se cherchent, on va dire, constamment. Est-ce que vous avez de la visibilité aujourd'hui? Est-ce que vous voyez au moins ce que je voulais dire, c'était la nécessité de l'union? Parce qu'on l'a vu aux dernières élections législatives, avec la menace du RN qui pouvait arriver au pouvoir, il y a eu quand même les Français de gauche qui ont sommé quasiment les partis politiques à s'unir. Est-ce que cette union, voilà, elle a un avenir selon vous?
Bah, c'est vrai qu'on dit souvent ça, que le problème de la gauche, c'est qu'elle est divisée. Si elle était rassemblée, ça réglerait le problème. Mais je pense qu'en vrai, quand on regarde attentivement, c'est pas si vrai que ça. Parce que le problème de la gauche, pour moi, c'est pas sa division, c'est sa faiblesse, quoi. C'est que le problème, c'est qu'on est tous très petits. Et donc, si on se rassemble, ça fera juste un rassemblement de petits. Et on voit... On l'a vu, on était rassemblés pour les législatives. Bah, au final, on fait 180 députés, quoi. C'est pas beaucoup. C'est loin de la majorité. On était rassemblés aussi aux législatives d'avant, en 2022. Ça, avec le... Comment ça s'appelait déjà? J'ai un trou.
La NUPES.
La NUPES. On voit que ça n'a pas fait beaucoup. Voilà. Si on additionne le score qu'on a fait à la présidentielle, si on additionne en 2022, là, le PS, les écolos, les insoumis, les communistes, ça fait à peu près 26-27%. Et si on regarde le score qu'on a fait aux législatives, bah c'est ça, c'est 26-27%. Donc on voit que l'unité, ça ne nous a pas permis de gagner. Et donc ça veut dire, pour moi, et c'est l'intuition qu'on a depuis le début, c'est que le problème, ce n'est pas l'unité, c'est la faiblesse, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on ne parle plus à personne. Enfin, il n'y a plus personne qui vote à gauche, en vrai. Enfin, c'est très faible.
Et pourquoi ce discours il serait plus audible de la gauche? Pourquoi est-ce que les gens n'auraient pas envie de voter à gauche?
Pour moi, il y a deux raisons. C'est déjà parce que la gauche, elle a trahi, en vrai. La gauche, elle a gagné en 2012 avec François Hollande. Et au final, les socialistes, nous, on était direct dans l'opposition, mais ils ont fait une politique qui ressemble à une politique de droite. Ça, c'est un vrai problème. Et ensuite, parce qu'on a une gauche, je crois, qui parle que aux gens déjà politisés des centres-villes, en fait. Et qu'aux gens qui s'intéressent déjà à la politique. Mais... quand on est éloigné. Et alors qu'avant, la gauche, elle arrivait à faire ça. Elle arrivait à parler à tout le pays, pas qu'au centre-ville, et elle arrivait à parler aux gens éloignés de la politique. Et voilà, elle arrivait à parler aux ouvriers, aux salariés, aux jeunes, elle arrivait à parler à plein de monde. Aujourd'hui, la gauche, elle parle que dans un milieu militant, et après, soit les gens s'abstiennent dans, on va dire, les classes populaires, soit votre Rassemblement National. Mais parce qu'on, voilà, on s'est trop enfermé dans des débats internes, on s'est trop enfermé dans des caricatures. Et nous, les communistes, on essaye de faire autre chose. On essaye d'incarner une gauche qui peut parler à tout le monde. Quand on parle de bac professionnel, de permis de conduire gratuit, quand on parle de tout ça, c'est pour essayer de parler à tout le monde et pas parler que à, je disais, aux gens des centres-villes et aux gens déjà politisés. Et ça, je pense que c'est important de réussir à incarner autre chose parce que, Si on reste dans notre espèce d'entre-soi militant où on parle que à nous, en fait, ben, je pense qu'il y a un risque que la gauche elle finisse par disparaître, quoi. Et du coup, moi, je préfère être tout seul, mais réussir à parler à un plus grand nombre et à, voilà, plutôt que d'être derrière quelqu'un qui, lui, va parler que à sa base militante, en fait, et déjà radicalisé, on va dire.
Mais dans une optique de rendre le discours de gauche audible, est-ce qu'il n'est pas important d'avoir un candidat de gauche au deuxième tour aux élections présidentielles de 2027, sachant que dans les calculs d'apothicaires qui ont été faits, Mélenchon avec ses 20%, plus les voix de Fabien Roussel, plus les voix des écolos en 2022, il y aurait été au deuxième tour. Est-ce que ce n'est pas quelque chose, un enjeu où vous vous dites, en fait, il faut qu'il y ait un grand débat national qui ne soit pas, entre guillemets, parasité par la droite et l'extrême droite, mais où la gauche aura une voix? Est-ce que ce n'est pas un bel enjeu pour vous aussi?
Arriver au second tour, mais pourquoi faire, quoi? Parce qu'on voit que Mélenchon, c'est le candidat le moins bien placé pour faire un bon score au deuxième tour.
D'après les sondages.
Ouais, mais on voit même que c'est... Il y a un côté repoussoir quand même chez ce gars. Puis il est vieux. Il y a un temps où il a incarné quelque chose, je trouve, pendant longtemps. Moi, quand j'ai adhéré, là, il y a 12 ans, c'était quelque chose, quoi. Mais maintenant, il a trop voulu... cliver, radicaliser, chercher la punchline, et maintenant les gens, je crois, ils en ont marre de lui. Et donc, à mon avis, il faut construire autre chose. Moi, je pense qu'il y a à gauche, il y a une voie qui existe entre les outrances de Mélenchon et on va dire la gauche ou qui est à peine, on ne sait pas trop vraiment si elle est de gauche, comme François Hollande ou Raphaël Glucksmann, eh ben, y a un espace au milieu. Et nous, avec Fabien Roussel et les communistes, c'est ça qu'on veut incarner. C'est un espace entre les outrances de Mélenchon et sa radicalité qui ne parle pas beaucoup, même si ça veut rien dire la radicalité, mais ses outrances en tout cas, et qui ne parlent à pas grand monde qu'aux gens déjà de gauche, et voilà. Et l'espèce de centre-gauche libérale incarnée par Raphaël Glucksmann. Je pense qu'il y a une place, et nous, c'est ça qu'on veut incarner. Finalement, une gauche authentique et populaire, qui n'a pas de sujet tabou, qui parle à tout le monde, qui ne sort pas des vieux discours politiciens où on ne comprend pas bien, mais on sent qu'on est en train de se faire arnaquer. Bon, voilà, une gauche un peu sincère, authentique, qui parle à tout le monde. Et je pense que Fabien Roussel, il est bien placé pour incarner ça, mais il n'y a pas que lui, hein, et pas tout seul, il faudra qu'on le fasse avec d'autres. Mais je pense que c'est intéressant, en tout cas, tout ce qu'on a commencé à mettre dans le débat public. On voit, on n'a pas fait un gros score aux élections, mais par contre, Fabien Roussel, c'est la personnalité préférée c'est la personnalité de gauche préférée des Français. Donc je vois qu'il y a des choses à travailler, en vrai.
Très bien. Massimo, toi, toutes ces négociations qu'il peut y avoir entre partis politiques, ces rivalités parfois, est-ce que c'est quelque chose que tu comprends ou est-ce que c'est un des facteurs qui pourrait t'éloigner de la politique ?
C'est vrai que si je veux voter pour un parti et que dans ce même parti, il y a des contradictions et c'est pas toujours clair, ça va un peu me dissuader de m'intéresser ou même de voter directement pour ce parti. Mais en tout cas, là, comment j'entends l'explication de la gauche, je pense que c'est une meilleure façon de faire, de réussir à unir en même temps les extrémistes, on va dire, comme tu l'as dit, radicalisés, et ceux qui sont, voilà, un peu plus comme Hollande, un peu entre la gauche et plus vers le centre. Mais je pense que c'est une meilleure façon de pouvoir unifier et que tous les gens puissent suivre un seul représentant, un même parti. Et c'est vrai que là, actuellement, avec tous les différents partis de gauche, ça peut être un peu compliqué de vouloir faire l'unification de tout cela.
Manuel Valls parlait de gauche irréconciliable il y a quelques années. C'est un petit peu de ça qu'on parle aussi. Mais du coup, vous parliez, Hassan, de la ligne que vous et Fabien Roussel incarnez aujourd'hui par rapport au communisme français. Est-ce que vous êtes toujours révolutionnaire ? Parce que des fois, j'entends vos discours et je trouve que parfois, le Parti communiste a un discours qui peut s'apparenter de plus en plus à quelque chose d'assez réformiste. Et est-ce que le Parti communiste revendique encore son ADN révolutionnaire aujourd'hui ?
Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est ce que je disais tout à l'heure hein, quand vous m'avez demandé ce que c'était être communiste en 2024 et tout. Mais si, bien sûr, on est révolutionnaire. Ça, nous, du coup, être révolutionnaire, ça veut dire qu'on veut qu'il y ait une autre classe sociale qui prenne le pouvoir. C'est ça, être révolutionnaire. La Révolution française, avant, c'était les aristocrates qui avaient le pouvoir. Et puis ensuite, c'est devenu la bourgeoisie qui a pris le pouvoir. Il y a eu une révolution. Et c'était la fin des rois, il y a eu de la République et tout. Et du coup, nous, on est révolutionnaire. On considère qu'il y a une classe sociale qui est, on va dire, le monde du travail, les salariés, les ouvriers, les employés, même les cadres, en vrai. Hein. En fait, c'est les salariés, en fait. C'est tous ceux qui sont... C'est, pour nous, on voit qu'il y a ou les patrons ou les salariés. Et du coup, on pense que notre classe sociale, elle doit prendre le pouvoir et qu'elle prendra le pouvoir un jour. Et donc, du coup, on est pour une révolution. Et on a des propositions révolutionnaires. Par exemple, quand on dit que... on veut, je parlais tout à l'heure de Parcoursup par exemple, et quand on propose nous en gros ce qu'on dit c'est que sur ce sujet très précis, c'est qu'il y a un choix, le constat qui est fait c'est de dire, il y aura pas de la place pour tout le monde parce qu'il n'y a pas assez d'argent et du coup il va falloir sélectionner les jeunes. Nous on dit c'est pas vrai, on a une proposition révolutionnaire, c'est de dire si on décide qu'il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Il faut juste construire des facs, recruter des profs et construire des sites U, des restos U pour qu'on puisse manger, se loger et tout. Et pour ça, il va falloir aller chercher l'argent dans la classe opposée, quoi, à savoir les grands patrons et ceux qui ont... Voilà. Ça, c'est une proposition révolutionnaire, je pense. Mais peut-être que quand je dis comme ça, ouais, il faut supprimer Parcoursup, on ne dirait pas que c'est révolutionnaire, mais si il y a le temps d'expliquer et tout... On peut expliquer en quoi c'est révolutionnaire. Ou pareil, quand on dit, nous par exemple, il y a un truc qu'on n'a jamais compris, ouais, c'est que la démocratie, elle s'arrête à la porte de l'entreprise. Quand on est citoyen, il y a de la démocratie, mais par contre, dès qu'on est salarié, c'est fini. Nous, on veut que les salariés ils puissent avoir un droit d'intervention. Par exemple, si là, on dit qu'il faut construire des voitures électriques et tout, et on voit qu'il y a la voiture électrique qui va être produite en Chine, pour qu'ensuite on aille la faire venir par bateau et tout en France. Ça, c'est une aberration quand même. Parce que si on fait ça, c'est aussi pour la planète. Mais si après on va l'importer par paquebot, c'est idiot. Donc nous, on pense que si les salariés de Renault ou de Peugeot, ils avaient le droit, un droit de veto dans l'entreprise et un droit de décider comment quelle est la stratégie de l'entreprise, ben on pense que ça serait bien pour le pays et pour les salariés, parce que personne de mieux que les salariés d'une entreprise, on est les mieux placés pour connaître notre entreprise. Et ça, pour le coup, c'est une proposition révolutionnaire de donner du pouvoir aux salariés dans l'entreprise. Et donc voilà, nous aussi, on est révolutionnaire sans problème quand on veut voilà, reprendre de l'argent sur la finance, quand on veut créer une banque publique pour financer tous les projets, pour financer plein de choses, pour éviter d'avoir à emprunter sur les marchés, tout ça. Si, si, nous, on a des propositions et des projets révolutionnaires. C'est juste que bah, dans un monde où les médias sont quand même accaparés par des fonds, enfin, des puissants, des gens, des riches, quoi,
Des gens très très
des
riches, c'est
voilà, des Lagardère.
principalement des gens très très riches qui tiennent les médias,
C'est
oui, on peut
ça.
le dire, il n'y a pas de souci.
Des Lagardère,
Bernard
Bernard
Arnault,
Arnault, tout ça,
Bolloré
bah,
aussi, etc.,
Bolloré.
bien sûr.
En fait, c'est des médias où on n'a pas la place pour développer. C'est très dur de développer tout un. Là, je fais quelques plateaux, je fais pas mal de médias et tout. Et j'ai pas l'habitude, comme ça, qu'on me laisse développer un propos, que je puisse expliquer les propositions et tout. Normalement, au bout de 45 secondes, on me coupe pour me dire ouais, mais t'as vu, Mélenchon, il a dit ça, et ouais, est-ce que vous soutenez ça? Et du coup, on n'a jamais le temps de développer nos propositions et d'expliquer en quoi se comportent ces révolutionnaires. Et du coup, c'est pour ça que je pense. On a peut-être un peu oublié, mais si nous, si on nous laisse le temps d'expliquer pendant plus d'une minute trente, on peut dire pourquoi nos propositions sont révolutionnaires, il n'y a pas de problème.
Très bien, non, sur mon pari FM, on a le temps de développer son propos.
Ça fait
Toi,
plaisir.
Massimo, c'est des choses qui te parlent. Toi, ce qu'il dit Hassan, la lutte des classes, être révolutionnaire, c'est des choses qui te parlent, que tu ressens concrètement, c'est des choses un peu lointaines que tu as vues dans des livres d'histoire, mais qui ne sont pas possibles dans la société d'aujourd'hui.
Bon, c'est plus ouais, ça, je voyais ça pas bien sûr. On a eu l'histoire française avec les révolutions, et c'est vrai que c'est un terme que j'ai pas forcément entendu parler récemment, mais en fait, là, avec l'explication qu'il me donne, j'arrive à mieux visualiser ce qu'est un révolutionnaire d'aujourd'hui. Donc, se battre pour un partage des droits, afin que aussi, voilà, il y a une distribution des finances dans les domaines publics, etc. Non, je pense que c'est une bonne vision.
Bien, ouais, c'est aussi en fait, c'est reprendre le contrôle des moyens de production. C'est ce qu'on
Ouais,
dit
c'est
aussi
ça.
beaucoup sur ça.
Et puis parce
Bon.
qu'aussi, comme que je comprends bien, ouais, pardon, mais
Vas-y.
déjà de ce que j'avais compris, ouais, voilà, ceux qui tiennent déjà les grandes têtes, c'est finalement ceux qui possèdent la majorité de l'argent. Et en fait, ça va dans le sens, si c'est eux qui possèdent les grands médias et qu'on propose des idées qui vont à leur encontre, jamais ils vont vouloir les afficher ou les présenter aux grands médias.
Bah oui, carrément. Mais ça m'étonne pas que tu dis révolution, c'est un truc que j'entends plus parler et tout, mais je pense que c'est aussi notre faute. Je pense faut qu'on remette un peu des choses concrètes derrière qu'est-ce que c'est la révolution. Moi, je pense que c'est dépassé maintenant, par exemple, un peu tous les trucs de révolution armée, comme en 1789 ou quoi. Je crois pas que ça sera comme ça que ça se passera, ce sera sous d'autres formes. Mais à mon avis, il y a des révolutions à inventer au 21e siècle et
Bien
ça
sûr,
sera à nous de le faire.
bien sûr.
Je voulais quand même revenir sur un événement qui a eu lieu à la fin de l'été. C'est Fabien Roussel qui n'a pas été très très révolutionnaire pour le coup, puisqu'il est parti à l'université d'été du MEDEF, qui est donc le rassemblement des plus gros patrons de France, du coup, d'un extérieur un peu opposé aux valeurs du Parti communiste français. Et ce qu'il a déclaré, Fabien Roussel, au MEDEF, c'est qu'il avait un grand honneur d'être reçu ici. Il a dit: je suis respectueux des entreprises et nous avons une ambition commune, un projet partagé, celui de remettre le travail au cœur de la société. Est-ce que vous comprenez, Hassan, que ça a pu faire grincer des dents donc le chef d'un parti que vous me dites révolutionnaire aille un petit peu pointer ses accords et aille s'afficher aux côtés du MEDEF comme ça?
Ouais, bah, à la fête de l'humanité, là, il y avait un débat entre le patron du MEDEF et la patronne de la CGT. Philippe Martin, je crois, ou Pierrick Martin, je ne sais plus, Martin, son nom de famille, et Sophie Binet de la CGT.
Bien sûr.
Et il y a un débat contradictoire. Mais ouais, moi, ça ne me choque pas parce que des fois, on est un peu caricaturaux à dire les patrons, mais par exemple, le gars qui tient un kebab, c'est un patron.
Mais le gars qui tient un kebab, il n'est pas au MEDEF.
Ouais, mais je veux
C'est-à-dire,
dire que c'est.
parler d'ambition commune, de projet partagé, ça peut paraître quand même assez hallucinant de la part du patron du Parti communiste français.
Bah, c'est sûr que pour les grands patrons, en tout cas, on n'a rien en commun. Mais je pense qu'il y a plein de, les patrons de TPE, les petites entreprises, elles aussi, elles ont intérêt à la politique qu'on veut mettre en place. Quand on veut, par exemple, créer une banque publique qui pourra prêter à des entrepreneurs, à des petits patrons pour développer leurs projets et tout, je pense que c'est intéressant. Alors qu'aujourd'hui, on a des banques qui prêtent qu'aux gros. Et quand on veut lancer, quand on veut se lancer, c'est très dur. Donc moi, je pense qu'il y a un intérêt commun entre les salariés, les ouvriers, les employés, même, je disais tout à l'heure, les cadres et certains petits patrons. Après, c'est sûr que non, avec les grands patrons et le grand patronat, là, il n'y a rien à voir. Mais je pense que c'est pas pareil d'être un patron d'une petite entreprise de 5-6 salariés, parce que déjà, soi-même, on bosse quand on gère une petite entreprise. Et du coup, c'est pas pareil que quand on est un grand patron ou juste... on attend la fin du mois que l'argent tombe et qu'on est, actionnaire et que les dividendes tombent, quoi. Ou voilà, c'est pas pareil. Et du coup, c'est pour ça, je pense que c'est ça, c'était ça qu'il voulait dire. Mais ouais, c'est sûr, avec les grands patrons, non, là, y a rien à voir.
Très bien. Et j'avais une dernière question un petit peu. On va revenir sur les petites tensions qu'il y a à gauche, puisqu'il y a quelques semaines aussi, il y a Léon Defontaine qui a fait une sortie assez remarquée où il critiquait, entre guillemets, les prises de position de la France insoumise sur la Palestine. Il faut savoir quand même que la question palestinienne, c'est une très très vieille revendication des jeunes communistes et du Parti communiste français, qui ont été pendant très longtemps le seul parti à parler de la question palestinienne. Et est-ce que c'est pas vous tirer une balle dans le pied que d'aller parler comme ça sur des grands médias de vos camarades politiques qui eux aussi luttent pour la libération de la Palestine?
C'est vrai que ouais, la Palestine, c'est un sujet important pour nous depuis toujours. On a toujours été proche des Palestiniens et aussi des communistes, des progressistes israéliens, parce que y a pas en Israël, tout le monde ne soutient pas Netanyahou, il y a aussi une gauche israélienne et tout ça. Et nous, on a toujours parlé aux deux. Moi-même, Léon Desfontaines, il y est allé. Moi-même, j'y suis allé en 2019 en Palestine. Et là-bas, en fait, quand on rencontre les Palestiniens ou même quand on parle aux communistes palestiniens, eux, ce qu'ils nous disent, c'est que ce qu'ils veulent, c'est la paix. Et que ce qu'ils veulent, c'est... Et que ce qui pourrait garantir la paix, c'est en fait une solution à deux États, avec un État palestinien et un État israélien à côté. Et du coup, c'est... je sais que chez la France Insoumise, ces derniers temps, ils n'ont pas été très clairs sur ce sujet, sur la solution à deux États, sur la condamnation du Hamas, parce que nous aussi, nos partenaires palestiniens, ils nous disent que faire du terrorisme comme a fait le Hamas, ça va pas aider à la paix, ça va pas aider le peuple palestinien. C'est ça qu'ils nous disent. Et du coup, c'est vrai que nous, quand on voit que depuis la France, il y a des gens qui sont pourtant de gauche, qui ont du mal à condamner le Hamas ou qui ont du mal à dire qu'il faut une solution à deux États et tout, moi, je pense que ça aide pas la cause palestinienne, ça la dessert. Et du coup, il y a plein de gens même qui pourraient se dire « moi, je suis prêt à m'engager pour aider la Palestine et tout ça ». Mais quand ils voient qu'il y a des gens qui sont pas clairs ou on voit pas trop où ils veulent en venir, je pense que ça nous aide pas. Et c'est pour ça que nous, on a préféré se dissocier pour dire que voilà, on sur ces sujets, il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord. Parce que je pense que les gens sont pas dupes, ils voient bien qu'on a des désaccords à gauche. Et donc, on préfère être franc et honnête et dire ouais, sur ça, on n'est pas d'accord, sur ça, voilà. Mais il y a du débat, on en discute, plutôt que faire genre, on est tous copains et tout, sinon on serait dans le même parti. Donc, nous, on préfère toujours être honnête et dire la vérité plutôt que de faire croire qu'on est d'accord.
D'accord, très bien. Je vous remercie. Donc, on arrive sur la fin de l'émission. On va bientôt conclure. Je ne sais pas si Massimo, tu as une dernière question à poser à notre invité ou quelque chose que tu voulais dire en fin d'émission.
Non, je pense que j'ai eu assez d'informations aussi. J'en ai appris beaucoup sur le Parti communiste, sur les valeurs que ce parti défend et l'ambition que ça a. Donc... Bon, je suis satisfait, j'ai reçu beaucoup d'informations.
Tu as apprécié ta première politiquement votre première expérience en radio, c'était cool?
Ouais, c'était cool, franchement, ça m'a fait plaisir.
Super, merci. Merci Hassan.
Avec plaisir.
Pour vous, ça a été aussi?
Ouais, très bien. Super.
Très bien. Bah, donc, je vous remercie tous les deux, hein, puisqu'on est là avec Massimo qui vient du Val-de-Marne et Hassan qui vient de Tournefeuille mais qui est récemment installé dans le 13e arrondissement de Paris. Donc voilà, je remercie aussi Jason à la technique et je souhaite une bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir.
Les Grecs bien graisseux, bien graisseux. Gros, pourquoi j'aurais changé pour dire j'ai même pas le permis, je roule toujours en BMW parce que cela est permis, gros. Et l'ami, faut arrêter de se prendre la tête. Laisse parler les gens, gros, on vit sur la même planète. On mange toujours avec les doigts, dors sur le même genre de toit. Est-ce que la rage, tu sais c'est quoi? Demande au mec que je côtoie.
du système, je suis toujours la proie, vu que je m'y suis pas plié. En signant sans trait, c'est l'esprit de mon quartier qu'ils ont signé.
Ils ont signé, tu sais que la rouette tourne et ça, faut l'accepter. Pas d'hypocrisie entre nous, ça je peux pas accepter. Gros, c'est pas de ma faute si j'ai trop de potes, si j'ai la cote. La rumeur qui tourne paraît que c'est grâce à Skyrock. Dans la zig, je dors pas, je suis insomniaque, j'ai les gouttes et le marchand de sable. Je fais pas ce rap de représenter tous les insociables. De plus, ça rassure ma famille qui pète un câble. Ouais, je m'en bats les couilles si t'es jaloux, gros. Je fais toujours du son crasse. 113, le taux de jalousie a doublé. On reste les mêmes. On ne doit pas se laisser troubler. Plus droit à l'erreur. Maintenant, on se doit d'assumer. Et l'essentiel, c'est que nos parents soient rassurés. 113, le taux de jalousie a doublé. On reste les mêmes. On ne doit pas se laisser troubler. Plus droit à l'erreur. Maintenant, on se doit d'assumer. Et l'essentiel, c'est que nos parents soient rassurés. Toujours. Pour Camille Woodstar, je représente. Pas des mecs qui plaisantent. Souvent un plus de 50 sur une descente. Et si on se croise, pas la peine qu'on se présente. Qui ne tente à rien.
On démonte.
Passe à l'heure de la série de pompes. À l'heure où je fusille à la seconde. À Vitry ou contentieux, rime avec fusil à pompe. Hardcore et le swing, gros, c'est le ghetto feeling. Pourquoi tous les Zoulous nous appellent pour un featuring?
Pourquoi?
DJ ou M6, tous veulent le succès.
Tu veux pas poser sur mon album?
Pour leur faciliter l'accès. Des fois j'en ris car quand ils pensent c'était un délire. Maintenant dans le rap plus d'un imposteur veut investir.
Ils sont criminels qu'on ramène, le rap nous le maîtrisons.
Les keufs nous les méprisons,
la cause les frères en prison.
Ça doit bien faire 10 ans que je suis dans environ. J'ai dit mes œuvres à toute ma banlieue et ses environs.
J'ai préféré faire l'argent propre avec la gamberge d'un bandit. Mon inspiration le haut 13, viens voir où j'ai grandi. Entre les vices de crapule et les choses de la vie. T'as vu, rien n'a changé, on habite toujours à Vitry gros.
Rien n'a changé, faut du cash pour me manger. Je porte une arme qu'un bitume, c'est le danger. Pris en flag, file par derrière. Et l'état stoppe ta carrière.
113, le taux de jalousie a doublé. On reste les mêmes, on ne doit pas se laisser troubler. Plus droit à l'erreur, maintenant on se doit d'assumer. Et l'essentiel c'est que nos parents soient rassurés. 113, le taux de jalousie a doublé. On reste les mêmes, on ne doit pas se laisser troubler. Plus droit à l'erreur, maintenant on se doit d'assumer. Et l'essentiel c'est que nos parents soient rassurés. 113, on reste les mêmes. Plus droit à l'erreur.
Ok Manu.
Et les français que cette famille soit rassurée. 113, le taux de jalousie a doublé. On reste les mêmes. Je te dois rien, tu dois rien.
Délicat.
Plus droit à l'erreur. On voit rien. Que tes parents soient rassurés.
Qui a dit que le rap monte à la tête de trop de gens.
C'est la mi-fa.
Certains
témoignent. Et les trois de ses cas. Et nous on est là.
Et l'essentiel c'est que nos parents soient rassurés.
On ne doit pas se laisser troubler.
Ok Manu.
Ok mon gros. On ne doit pas se laisser troubler.
On est fiers.
Vitry, gros.